Bien, je vais donc demander à Madame Ménian de bien vouloir procéder à l'appel.
Merci, Monsieur le Président. François André, Gaël Andreau, Nicolas Belloir, Thierry Benoît, Isabelle Biard, Armel Billard, Damien Bongard, Philippe Bonin, Frédéric Boursier, Jean-Luc Bourgeot, Vera Briand, Jean-Luc Chenu, Muriel Condol-Ferrec, Ludovic Coulombelle, Anne-Françoise Courteil, Isabelle Courtinier, Marie Dogan, Jacques Daviaud, Claudine David, Catherine Debroise, Nadine Dréan, Béatrice Duguay-Pérou Honoré, Michel Gauthier, Aymar de Gouvion-Saint-Cyr, Pierre Guiton, Sophie Guyon, Béatrice Acny-Robin, Marc Hervé, Louis Hubert, Aude de Lavergne, Didier Le Bougeant, Isabelle Le Callennec, Anne Le Gagne, André Lefeuvre, Pierre-Yves Mailleux, Bernard Marquet, Christophe Martins, Émeric Massier-Dubier, Yvon Mellet, Gaël Mestri, Solène Micheneau, Frédéric Miramont, Roger Morazin, Michel Motel, Louis Potrel, Franck Pichot, Marcel Rogemont, Sandrine Roll, Emmanuel Rousset, Monique Socat, François Sourdry, Agnès Toutan, Thierry Travers.
Merci. Avant juste d'engager l'examen de nos dossiers, je voudrais, en votre nom à tous, exprimer toute notre solidarité, notre sympathie envers notre collègue Christophe Martins, dont vous avez pu lire dans la presse qu'il a été victime d'une agression avérée, dont l'auteur a été identifié mercredi. Donc, Christophe, sois assuré de notre solidarité collective. Ce sont toujours des moments difficiles et des moments de toute façon inacceptables dans une démocratie. Je pense qu'il y a un certain nombre de principes qui doivent être réaffirmés et bien sûr, nous serons à tes côtés dans l'exercice de ce passage difficile. J'en profite également pour dire que c'est avec beaucoup de satisfaction, et je leur ai rendu hommage, que j'ai constaté que les auteurs de l'agression d'un sapeur-pompier à Combourg dans la nuit de samedi à dimanche avaient pu être très rapidement interpellés, déférés, jugés en comparution immédiate, alors avec un report pour des questions d'organisation de leur défense, mais l'un d'entre eux a été placé sous mandat de dépôt. Et là aussi, je salue à la fois l'action des forces de l'ordre, de la justice. Des gendarmes ont aussi été molestés et un a été gravement blessé. Et dans les deux cas, eh bien, parfois on imagine que ce sont toujours des agresseurs venus d'ailleurs. Dans les deux cas, ce sont des agresseurs en proximité. Et notre sapeur-pompier, les gendarmes ont été agressés alors qu'ils étaient en uniforme. Donc c'est tout à fait, bien sûr, des circonstances aggravantes. Et je souhaite que les mesures, les condamnations qui soient prises, le sont sans doute en septembre, soient à la mesure de ces comportements totalement inacceptables. Et j'ai pu aussi redire aux sapeurs-pompiers, bien sûr, notre solidarité, notre accompagnement et la mobilisation complète de la direction et notamment également de nos dispositifs de soutien psychologique, parce que être agressé, c'est toujours extrêmement difficile, mais l'être en plus par des personnes qui sont en voisinage immédiat et que l'on est amené à revoir quasiment tous les jours, c'est une épreuve supplémentaire. Je pense que chacun me mesure bien. Donc, je tenais à donner ces éléments d'information. Mais bon, l'enquête dans les deux cas a été rapide et je crois que force doit aussi rester à la loi et au principe de la République. Alors, nous avions deux questions orales dont je vais vous donner lecture, enfin donner lecture aussi des réponses. Alors, la première était relative aux difficultés rencontrées par les étudiants d'Ascoria pour trouver des stages. Donc la question, quels éléments avez-vous quant à l'évolution de cette situation, partenaire d'Ascoria? Quelles propositions peuvent être formulées par les élus du conseil départemental pour que les étudiants ne soient plus confrontés à cette problématique? Alors, la difficulté importante de trouver le nombre suffisant de terrains de stage pour les étudiants en formation d'assistant de service social est récurrente depuis de nombreuses années. Cette difficulté s'est trouvée renforcée depuis l'instauration de la gratification obligatoire à partir de 2 mois de stage. Toutefois, le département d'Ille-et-Vilaine est fortement et reste fortement engagé dans le cadre du protocole régional de l'alternance et offre un nombre significatif de terrains de stage aux étudiants ASS d'Ascoria. Pour ces derniers, les difficultés sont renforcées cette année du fait de l'instauration de nouvelles modalités de stage et du chevauchement de deux systèmes d'alternance. Ainsi, pour l'année 2019, et malgré des engagements importants dans l'organisation des stages, les services du département se sont largement mobilisés pour répondre à la demande à la hauteur de ce qui était fait les années précédentes. Pour 53 étudiants en première année de formation d'assistante service social, Ascoria a reçu au 14 juin 37 offres de terrain de stage de référence, stage de 38 semaines depuis avril 2019 à 2021. Donc 53 demandes, 37 proposées par le seul département. Ça vous donne la mesure de notre engagement, et dont 24 directement au sein des services du département d'Ille-et-Vilaine. Donc ce niveau d'engagement nous est largement reconnu par Ascoria. Alors les nouvelles modalités d'alternance. La réforme des diplômes de travail social est intervenue en août 2018. Cette réforme vise et renforce le maintien de l'alternance comme fondement de la formation. Le principal changement au niveau des stages est l'instauration d'un stage long qui s'étend sur les 3 années de formation. Ce stage dit de référence est de 38 semaines gratifiables et démarre en avril de la première année pour se terminer en avril de la 3e année. Il se déroule sur un même site ou peut être envisagé entre 2 structures. En plus de ce stage long, les étudiants doivent réaliser 2 stages courts non gratifiables auprès d'autres structures. Alors, les contraintes de la nouvelle organisation. L'application de ces nouvelles modalités dès la rentrée 2018 entraîne un chevauchement entre 2 systèmes d'organisation, ce que j'évoquais à l'instant. L'obligation à la fois d'accueillir ces étudiants de référence et des étudiants en stage de 3e année. L'instauration d'un stage long demande un engagement des formateurs terrain sur une durée plus longue, 2 ans. Enfin, l'instauration d'un stage plus long rend difficile l'accueil d'étudiants dans des services très spécialisés et nécessite de pouvoir proposer des stages pluriservices ou pluri-institutions plus compliqués à organiser. Alors, nos engagements, afin de favoriser l'accueil, une collaboration étroite avec Ascoria, notamment dans le cadre du comité de veille sur l'accueil des stagiaires, une communication élargie auprès des responsables de CEDAS, des autres services et des professionnels, afin de présenter les nouvelles modalités d'alternance et leur mise en œuvre au sein du département, et la mise en place d'une indemnité de tutorat en lieu et place des renforts existants auparavant pour valoriser l'investissement des professionnels, indemnité qui s'élève à 71 euros net mensuels pendant 10 mois. Situation actuelle pour la promotion 2018-2021, donc 3 ans, 53 étudiants, 33 sont partis en stage de référence, dont 23 dans les services du département, 20 étudiants sont en stage court en avril 2019 dans l'attente de trouver un stage de référence, 4 de ces stages vont se transformer en stage de référence, dont 1 en Ille-et-Vilaine, CEDAS du pays de la Rechauffée, ce qui représente 24 stages de référence dans les seuls services départementaux. Et en plus des accueils en stage de référence, on accueille actuellement 8 ASS en 3e année, 2 éducateurs spécialisés, 2 CESF offres en cours de recensement. L'effort du département est donc maintenu malgré les changements importants induits par les nouvelles modalités d'alternance. En conclusion, l'engagement du conseil départemental dans l'accueil des stagiaires est important et est un élément sur lequel Ascoria sait pouvoir s'appuyer depuis plusieurs années. Malgré les contraintes imposées par des changements qu'il a fallu mettre en œuvre très rapidement et qui modifient largement l'accueil des stagiaires, le département est l'un des seuls employeurs à avoir répondu aux attentes d'Ascoria à ce niveau. Bien que ce contexte soit difficile pour des étudiants d'Ascoria, il est important de prendre acte de l'investissement déjà très important des équipes du département d'Ille-et-Vilaine sur ce point. Donc plus de entre 40 et 50% de la demande, c'est nous qui apportons la réponse. Second point, le 16 mai dernier, le Premier ministre donnait la possibilité aux présidents de conseils départementaux de relever la vitesse sur le réseau secondaire en passant de 80 à 90 km/h. De nombreux départements ont donné leur intention de revenir ou non aux 90 km/h. Avec la possibilité donnée de passer de 80 à 90 km/h sur le réseau secondaire, quelle est la position du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ? Alors, s'agissant des dernières annonces du gouvernement quant au possible passage à 90 km/h sur certaines routes départementales, je vous confirme, comme j'ai déjà pu en faire état, un avis très réservé, d'ailleurs partagé par mes trois collègues présidents de département breton, et qu'un nouveau changement n'est pas à l'ordre du jour dans l'immédiat. En effet, il est nécessaire de se donner le temps de l'observation et d'attendre les chiffres de l'accidentologie après 2 années de mise en œuvre, donc démarrage 1er juillet 2018, des nouvelles dispositions. D'ores et déjà, je peux vous indiquer que les services qui ont effectué des mesures ont observé des vitesses pratiquées sur plusieurs postes de comptage permanent. La comparaison s'est faite sur les 5 premiers mois de l'année 2018 avec les 5 premiers mois de l'année 2019. Les résultats confirment les données annoncées au niveau national par le Premier ministre dans un courrier au président de l'ADF, une baisse observée en moyenne de 4 à 5 km heure sur l'ensemble des postes de mesure. Ensuite, donc, comme mes homologues des autres départements bretons, je serai attentif aux logiques d'itinéraire proposées aux usagers de la route, en évitant les limitations à la carte en fonction des territoires traversés. La confusion potentielle qui en résulterait serait un facteur d'insécurité majeur, source d'accident. Il faut donc prendre le temps de la réflexion, de la concertation avec les services de l'État, des usagers et aussi, et je tiens à le souligner, des associations de victimes d'accidents de la route. Parce qu'on entend beaucoup des associations, y compris certaines, qui prétendent représenter 40 millions, vous voyez, qui n'ont pas 40 millions d'adhérents, bien évidemment. Et les associations de victimes sont trop souvent écartées. Mi-2020, nous pourrons, avec le recul nécessaire et l'observation des vitesses pratiquées, ainsi qu'avec un minimum de données sur l'accidentologie, objectiver les effets de la limitation à 80 km/h et, le cas échéant, envisager d'éventuelles adaptations de cette mesure. Dans les évolutions mises en débat dans le cadre du projet de loi sur les modalités, il faut, et là, j'ai participé à des réunions mardi et mercredi, j'ai vu qu'un nombre important de présidents de département n'avaient pas mesuré cela. Ce que je vais vous dire, c'est que sur le plan du droit, la règle restera le 80 km/h. Et le 90 sera toujours une dérogation. Sur le plan du droit, une dérogation, a fortiori à la hausse, doit être très précisément motivée. La responsabilité pénale personnelle des présidents de département ne manquera pas d'être systématiquement recherchée en cas d'accident, y compris par des personnes qui auraient demandé le retour aux 90 km/h, sur un tronçon où la vitesse aura été portée à 90 km/h. Et dernier élément de contexte qu'il convient de prendre en compte, autant la réduction à 80 km/h n'avait pratiquement pas posé de problème de panneau, comme c'était la nouvelle règle, le retour à des tronçons à 90 km/h, on a fait un petit calcul uniquement sur l'axe Fougères-Vitré. Ça doit être 24 km. Si nous décidions de repasser à 90 km/h, il faudrait donc implanter des panneaux à chaque intersection, 4 panneaux sur chaque intersection. Ça serait en moyenne un jeu tous les 800 mètres et donc sur ce seul axe, 60 panneaux. Donc d'emblée, 5 à 6 000 euros. Si l'on extrapole ce calcul à l'ensemble des 4 800 km de route, c'est 23 500 panneaux. Chaque intersection nécessitant dans les deux sens qu'on arrive de droite, de haut, fin de 90 et dans les 200. Eh bien, ce serait un budget de près de 2 millions d'euros. Là, c'est naturellement la solution où la totalité y passerait, mais fondamentalement, 90 sera une dérogation et au même moment, les routes nationales restent à 80 km/h. Alors, je crois que nous sommes dans une forme d'impasse et d'imbroglio. Le péché originel, c'est la façon dont la décision a été prise au début, sans concertation. Mais pour en sortir, objectivement, on met les présidents de département dans une situation un peu ubuesque. Et en l'état des choses, je ne proposerai pas d'aller, je ne veux pas dire dans cette voie, parce que c'est plutôt une impasse, mais je ne vous ferai pas cette proposition, donc nous attendrons 2 ans, une évaluation et d'ailleurs une commission spécifique placée sous l'égide de notre collègue André Lefebvre aura vocation à regarder, mais les données du problème, ce sont celles-là. Voilà pour les réponses à ces deux questions.